Tous les pays donc sont d'accord pour diminuer les émissions. La question, c'est quels sont les moyens, comment on fait? Comment on fait? Quels sont les outils qu'on se donne? Et les outils qu'on se donne ont été définis par le protocole de Kyoto, qui, je le rappelle, 97, est le premier accord climatique international dans le cadre de l'ONU. C'est le premier. Qui avait son intérêt et qui était très insuffisant dans les objectifs. L'objectif du protocole de Kyoto, c'est que les pays industrialisés diminuent leurs émissions de gaz à effet de serre de 5% entre 1990 et 2012. Vous voyez, quand on dit qu'il faut diminuer de 40% d'ici 2020, voilà, nous en sommes très loin. Bon. Le mérite du protocole de Kyoto, le seul, un des rares, c'est que c'est dans le cadre de l'ONU et que dans le protocole de Kyoto, il est clairement écrit que les engagements qui sont pris ne sont contraignants que pour les pays industrialisés. Et donc il y a une nette distinction entre pays industrialisés et les autres, ce qu'on appelle les pays de l'annexe 1 et les autres. Nette distinction. Et ça, les pays du Sud ne veulent pas lâcher là-dessus. Or, il y a un nouveau texte qui est en train de circuler, à l'initiative de l'Australie, des États-Unis, soutenu par l'Union européenne, qui dit, bon, les États-Unis ne signeront pas le protocole de Kyoto, malgré l'administration Obama. Ils n'ont pas signé le protocole de Kyoto, Obama ne signera pas le protocole de Kyoto. Donc l'idée c'est, je vous dirai pourquoi, l'idée c'est, il faut en sortir, il faut faire un autre texte. Et le texte qu'a proposé l'Australie est un texte dans lequel il y a des objectifs généraux, il faut réduire les émissions de moitié d'ici 2050, etc., etc. En revanche, il n'y a aucun objectif contraignant pour les pays industrialisés. Et il n'y a plus aucune distinction entre les pays dits de l'annexe 1, c'est-à-dire les pays industrialisés et les pays du Sud. Et c'est là-dessus que les pays africains ont claqué la porte à Barcelone, si vous avez écouté. C'est là-dessus. Ils ont dit, on arrête les négociations. Donc, tant qu'il n'y a pas des engagements fermes des pays industrialisés, tant qu'on ne reconnaît pas la responsabilité différenciée, nous on arrête. Voilà. Bon, donc, je vous dis en deux mots pourquoi les États-Unis ne signeront pas. Bon, Obama, contrairement à Bush, hein, puisque c'est le protocole de Kyoto avait été ratifié au moment de la présidence de Bush. Et donc ils avaient refusé, les États-Unis, de ratifier le protocole de Kyoto, qui pourtant n'était pas grand-chose. Hein. Bon, refus de le ratifier parce que Bush, d'abord, l'administration était dans le déni du changement climatique. Une grande part d'administration, ils étaient dans le déni. D'autre part, ils étaient dans un autre déni consistant à dire « le mode de vie américain ne se négocie pas ». C'est ce qu'avait dit Dick Cheney. Donc nous, on ne change rien. En gros, le mode de vie américain ne se négocie pas. Bon. Sur ces deux points, Obama a changé. Il y a un plan climat qui est en train d'être discuté au niveau des États-Unis, qu'on peut juger insuffisant, mais en tout cas il existe. Il y a la reconnaissance du changement climatique comme étant un problème capital, bon, extrêmement grave, etc., etc. En revanche, il y a une troisième raison qui fait que l'administration Obama ne signera pas le protocole de Kyoto, c'est que les États-Unis ne signent pas des accords internationaux contraignants pour les États-Unis. Ils n'ont pas signé, par exemple, le tribunal pénal international. Et donc, dans la mesure où le protocole de Kyoto définit des objectifs contraignants, les États-Unis ne le signeront pas. Ils ne pourront signer un texte que s'il n'y a pas de contraintes pour les États-Unis, que la puissance dominante n'a pas de compte à donner aux autres parties du monde. Et ça perdure, y compris sous l'administration Obama. Donc ils l'ont dit clairement, ils ne signeront pas le protocole de Kyoto. Bon, donc, ce qui se négocie à Copenhague, c'est la suite du protocole de Kyoto. Et donc, aujourd'hui, ce qui se trame, c'est un accord qui ne serait... Alors, ce serait plus un accord, un texte qui ne serait pas contraignant. Bon, c'est le point de rupture essentiel actuellement. Hein. Bon. J'en reviens au marché des droits, et au Brésil, et au protocole de Kyoto. Le marché des droits, dans le protocole de Kyoto, signé en 97, on a voulu mettre en avant des moyens pour atteindre ces maigres moins 5,2. Et d'ailleurs, les États-Unis, qui participaient à toutes les négociations concernant le protocole de Kyoto, ont beaucoup poussé pour la mise en place des marchés de droits. Et après, ils n'ont pas ratifié le protocole. Et en particulier, comment on finance ? Comment on fait ? pour imposer aux entreprises une réduction, parce que c'est surtout les entreprises quand même, une réduction de leurs émissions sans nuire à la compétitivité des entreprises. Ça a été le grand problème du protocole du protocole de Kyoto, d'autant que je voulais vous dire quand même que quand a été négocié le protocole de Kyoto, il n'y avait quasiment aucun mouvement social véritablement présent sur les lieux et dans les négociations antérieures. En revanche, les lobbies industriels ont tout de suite compris l'importance de ces négociations climatiques. Je peux vous dire qu'ils seront très très présents aussi à Copenhague, dans les couloirs de l'ONU. Parce qu'il y a des intérêts économiques évidemment extrêmement importants. Et donc, la question c'était comment ne pas nuire à la compétitivité des entreprises, c'est-à-dire on veut bien s'engager sur la diminution des émissions, on veut bien donc contraindre nos entreprises, mais on ne veut pas nuire à leur compétitivité au niveau international. Et donc on a mis en place dans le protocole de Kyoto, donc l'ONU, ce qu'on appelle des mécanismes de flexibilité. Comment faire pour que les entreprises donc ne soient pas atteintes dans leur compétitivité? Alors on a décidé, je prends l'exemple de l'Union européenne, parce que c'est le seul endroit où existe un marché du carbone, hein, pour l'instant. Il va y en avoir un aux États-Unis, en Australie, mais pour l'instant c'est le seul endroit depuis 2005. L'Union européenne, on a ratifié le protocole de Kyoto avec un engagement de diminution de 8% des émissions entre 1990 et 2012. On va y arriver à peu près. Et ensuite, évidemment, une fois qu'on a ratifié ça, il y a eu une répartition entre les différents États de l'Union européenne. Chaque État de l'Union européenne étant contraint de diminuer de temps, il y a eu une répartition des émissions d'ici 2012. Chaque État ensuite répartit la diminution des émissions sur les entreprises. Bon, je n'ai pas le chiffre en tête, là, j'ai oublié pour la France. Au niveau de l'Union européenne, ça représente 11 000 entreprises. Grandes entreprises, les plus polluantes, les entreprises qui produisent de l'énergie, la pâte à papier, la chimie, etc., qui sont soumises à ce qu'on appelle un système de plafonnement. C'est-à-dire qu'on leur dit, voilà, là maintenant, il faut faire des bilans carbone, elles font des bilans carbone, et il faut que, d'une période à l'autre, vous ayez diminué de temps vos émissions de carbone. Pour qu'on arrive en 2012 à moins 8% au niveau de l'Union européenne. Donc ceci a été coordonné par la Commission, qui a réparti entre différents États, et les États ensuite distribuent les contraintes au niveau des entreprises.